Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages. Salut, on est dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois. Ce soir, pour notre émission numéro 88, on va parler de la guerre aux drogues, aussi connue sous le nom de War on Drugs aux États-Unis, et un peu revenir là-dessus pour voir comment ça fonctionne et comment c'est un mouvement répressif. Ce soir, c'est Henri qui vous parle et je suis accompagnée
d'Alix, salut.
Et à la technique.
Salut, c'est Pile.
Avant de parler plus précisément de cette War on Drugs ou guerre à la drogue, on va donner quelques petites brèves d'actualité. À commencer par donner les suites du mouvement de défense des droits des prisonniers français, des DPF, qui a donné lieu à 25 interpellations, pour lequel il y a eu 25 interpellations lundi 28 avril. On en avait parlé dans la dernière émission, c'est 65 faits d'attaques contre les prisons qui ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, des incendies, des tags, des tirs d'armes lourdes, des menaces, des jets de cocktails Molotov, des agressions, etc. Et donc c'est la justice antiterroriste qui s'en est saisie avec 25 interpellations lundi, il y a la semaine dernière. A priori, c'est des attaques qui auraient été coordonnées et organisées depuis l'intérieur de la prison et déléguées à des exécutants à l'extérieur. Et a priori, ce que dit la presse, c'est que ça viendrait de la part de la criminalité organisée et probablement de la DZ mafia de Marseille. Faut quand même savoir que ça a continué dans les jours qui ont suivi et notamment dans la nuit du 5 au 6 mai, il y a eu une nouvelle attaque dans l'Oise où le domicile d'un couple de matons de la prison de Liancourt a fait l'objet d'une tentative d'incendie avec leur porte qui a été brûlée. Donc a priori, c'est toujours en cours et puis on vous donnera les suites s'il y en a.
Et moi, je vais revenir sur une proposition de loi qui a déjà été adoptée par les députés le 3 avril et qui vise à mettre fin à l'obligation d'aménagement des courtes peines. Donc, cette loi, c'est pour redonner la possibilité de mettre des peines de prison ferme de moins d'un mois, alors que pour l'instant, c'était pas possible en ce moment pour un juge de mettre une peine de prison ferme de moins d'un mois. Et mettre fin à l'obligation des aménagements pour peine de 1 à 6 mois. Sachant que pour ça, il y avait déjà une exception jusqu'à présent. Sur raison motivée du juge, il pouvait déjà envoyer quelqu'un en tôle. Voilà. Du coup, on va voir si cette loi est votée définitivement. Mais il semble que ce soit probable. Et c'est pas très étonnant vu les discours hyper répressifs qu'on entend en ce moment tenus par les politiques de tous bords. Et il y a d'ailleurs Gérald Darmanin, pas plus tard que la semaine dernière, le 28 avril, qui a envoyé une lettre aux agents de la pénitentiaire suite aux arrestations des DPF pour leur dire qu'il allait rétablir des frais d'incarcération pour les détenus et promis l'anonymisation des matons. Donc ça aussi à suivre, on verra si c'est juste des annonces comme ça en l'air ou s'il se passe vraiment quelque chose autour de ça.
Ça, j'ai pas vraiment compris parce que les matons, ils sont déjà anonymes. Enfin, en fait, les prisonniers, ils ont pas leur nom. Voilà, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire de plus, mais on en parlera à une prochaine émission. Pour continuer sur la répression made in Darmanin, il y a ce plan de construire des nouvelles prisons en préfabriqué. En gros, 3000 places qui naîtraient assez rapidement, vu que en fait, c'est des préfabriqués qui se feraient dans des usines Bouygues, pour citer les noms de qui est responsable de ça. Donc voilà, c'est le plan de Darmanin de créer ces 3000 places, à commencer par 50 places sur le terrain du centre pénitentiaire de Troyes. Et ces 3000 places, pour la moitié, en fait, elles seraient construites directement sur des terrains de l'administration pénitentiaire. Donc ce qui évite les problèmes avec les riverains, la non-acceptation de ces nouvelles prisons, etc. Donc voilà, en fait, c'est dans une volonté d'accélérer la construction de nouvelles places de prison, et aussi, ça coûte moins cher. Voilà, dans un contexte où on a atteint le nombre de 82 000 prisonniers au 1er mars pour 62 000 places de prison. Et donc, Le gouvernement se rend compte qu'ils n'arriveront pas au nombre de 15 000 places de prison qu'ils ont eu envie de construire. Mais du coup, ils promettent ces 3 000 places pour lutter contre la surpopulation, parce que c'est toujours la même raison. Donc on continue à enfermer plus, le nombre de prisonniers continue à augmenter, donc on crée des préfabriqués.
Et malgré que les abords des tôles soient de plus en plus surveillés, avec des technologies de surveillance de plus en plus développées, il y a des gens qui continuent d'aller essayer de rendre les murs des prisons un peu moins épais. Et on apprend par les syndicats de Mâton qu'il y a eu un attroupement d'une vingtaine de personnes devant la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis en Essonne, samedi 26 avril, pour réclamer la libération d'une détenue. Et je vais aussi dire un petit mot sur, a priori, une occupation qui, je pense, est toujours en cours, qui a eu lieu, où il y a eu des messages qu'on tournait cet après-midi. L'occupation de l'université Paris 8 par le collectif pour l'hébergement 93. Du coup, je vais lire leur communiqué. Pas d'expulsion sans relogement. Nous, certaines occupantes du campement du bassin de la Maltournée, nous avons décidé d'occuper des salles de l'université Paris 8 pour nous mettre à l'abri suite à la rechute des températures. Nous exigeons de la préfecture du 93, de la DRIL, de la mairie de Saint-Denis, des solutions d'hébergement stables et proches pour tout le monde et un suivi social. À défaut de propositions de relogement, nous exigeons que la mairie réquisitionne un bâtiment vide, car il y a plus de 3000 logements vacants à Saint-Denis. Venez nous soutenir dès maintenant dans la salle C022. Nous, femmes, mères et familles exilées, sommes sans cesse pourchassées par les autorités, car cela fait déjà la troisième fois que nous sommes expulsées de chaque endroit où nous essayons de trouver un abri. Tout d'abord, nous avons été expulsées de l'hôpital de La Fontaine le 21 avril, suite à la fermeture définitive du hall où nous étions à l'abri avec nos enfants. Le 22 avril, nous avons occupé la Bourse du Travail avec l'espoir de trouver des solutions de relogement pérennes. 6 nuits d'hôtel du 115 et de la halte de nuit ont été proposées à la moitié d'entre nous, mais certaines se sont retrouvées à la rue. Les forces de l'ordre n'ont pas tardé à intervenir dès le 24 avril suite à l'ordre d'expulsion donné par la mairie de Saint-Denis. Le mardi 29, nous avons occupé le gymnase Boris Baquet, alors qu'aucun renouvellement des nuits d'hôtel n'était prévu pour la grande majorité d'entre nous. La mairie a de nouveau ordonné l'expulsion sans proposer de mise à l'abri pérenne. Certaines d'entre nous ont pu obtenir quelques nuits d'hôtel supplémentaires, d'autres n'ont reçu aucune proposition. Enfin, suite à l'expulsion du gymnase le 30 avril, nous avons été obligés d'installer un campement en face des quais du canal de Saint-Denis à la Maltournée. Le campement n'est pas un bon environnement pour les enfants, les mamans et les personnes vulnérables à la santé fragile qui sont suivies à l'hôpital. Les enfants scolarisés, dont la plupart à Saint-Denis, dorment peu et s'endorment en cours. Les mamans avec des bébés nourrissons sont épuisées et l'état de santé des personnes fragiles se dégrade. C'est pour toutes ces raisons que nous occupons actuellement Paris 8. Pas d'expulsion sans relogement, logement, santé et école pour toutes et tous.
Et pour finir ces brèves d'actualité, on transmet l'appel à témoignage de la radio 94 degrés à l'ombre, qui est une radio rennaise des deux côtés des barreaux et qui permet de faire du lien entre les prisonniers et leurs proches, ainsi que de parler des luttes anticarcérales. Donc on a reçu par mail cet appel à témoignage suite à un décès en prison dont on avait déjà parlé, celui de Kevin Boudou, assassiné à la prison de Vezin près de Rennes, début mars. Cette émission de radio et les proches essayent d'éclaircir cette affaire et de demander justice et vérité. Donc voilà, il y a un appel à témoignage qui est lancé concernant si des gens auraient des informations. Donc voilà, il faut contacter l'émission 94 degrés à l'ombre. Et on les remercie pour leur message. Avant de faire une première pause musicale, je redonne les contacts de l'association, de l'émission, je vais y arriver, de l'émission Carapatage, donc qui sont carapatage@rise.net, notre blog carapatage.noblogs.org et notre compte Instagram @carapatage. Si pendant l'émission vous avez envie de nous appeler, c'est possible au 01 43 71 89 40 pendant les musiques. Et là, on va faire un petit retour sonore dans les années 2010, vu qu'on va écouter Hands Up des Black Eyed Peas. C'était sur l'album Elefunk.
Get it going, even if y'all don't be knowing.
Y'all don't be knowing.
Cause this shit that we throwing get you going,
go retarded.
Started up, banging our heads, start charting up. Didn't mean to bump your part in us. Digging this cat, cause we sharpen up. We dumbing it down, we smarting it up. We penetrate even though you're always up. Get down to the beat, cause we falling up. Electric, cause we like charging up.
Weaver,
EP's up, rhythmic, sonic pleaser.
Hit ya,
hot like fever, more than 200 degrees. You burn it up, he's getting low, let me turn it up. Let me your ear till my sperm is up in your brain, and the baby will ask me, say, coming with rhythms to make your head. We making our whole joint short circuit. Hands high, touch the sky, get them up. Get them up, 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 get them up.
Hands up.
Coming with rhythms to make your head jerk.
Hands up.
We making our whole joint short circuit. Hands high, touch the sky, get them up. Get him up, get him up, get him up, get him up, get him up.
I breathe up. Tap medical manual flows, deeper than Atlantic
O's. I would have got ridiculous flows, catching rhythm, making them go. Mathematic, acrobat.
Up in the scene, we original.
Know what I mean, BP mineral.
Storming strong from the several.
Barricade late for your terrible.
Oh, I'm the chief.
Filipino, letting you know I'm about to blow. Well, I am, I've been time to blow.
Set him up, set him, get him up. Time for us to raise it up.
Never go down, always head it up. Raise your hand, cause we blaze it up.
Anybody here who waited long, to you, I dedicate the song.
Ain't nothing wrong, gonna make you right. Straight to the point, this is a new joint.
Let me know this is your jam, y'all. Come on down and dance, y'all. Have a ball, y'all. Throw your hands up.
Hands up.
Coming with rhythms to make your head jerk.
Hands up.
We making our whole joint short circuit. Hands high, touch the sky, get them up. Get them up, 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 get them up.
Hands up.
Coming with rhythms to make your head jerk.
Hands up.
We making our whole joint short circuit. Hands high, touch the sky, get them up. Get them up, 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 get them up.
Gotcha, moving, let's make it hotter. Hotter than molten lava, burning like boiling water.
Coming with rhythms to make your head jerk.
Hands up.
We making our whole joint short circuit. Head high, touch the sky, get them up. Get them up, 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 get them up.
Hands up.
Coming with rhythms to make your head jerk.
Hands up.
We making our whole joint short circuit. Head high, touch the sky, get them up. Get them up, 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 get them up.
Thank you. On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on parle de la guerre aux drogues aux États-Unis. Un mouvement de politique intérieure et extérieure de lutte contre la vente de la drogue et l'usage de la drogue, mais on va en parler un peu plus précisément. Et Alix, tu vas commencer par nous parler de c'est quoi une drogue en fait.
Ouais, on se disait de peut-être commencer par ça. Parce que notamment quand on parle de la guerre contre la drogue ou de la lutte contre la drogue aux États-Unis, mais plus largement ailleurs, en France ou ailleurs, ce qui est largement sous-entendu, c'est qu'on parle d'un produit illégal dont on va essayer d'empêcher la vente, le recel ou la consommation. Voilà. Et du coup, le mot drogue, il est très connoté. Pourtant, la définition d'une drogue à la base, c'est pas tout à fait ça. Une drogue, c'est une substance qui peut être consommée, généralement psychoactive, pas nécessairement, et qui a un potentiel addictif. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui consomment une drogue ne vont pas forcément devenir addictes au produit qu'elles consomment, mais que le produit a en lui un potentiel addictif. Ça veut aussi dire qu'il existe des drogues légales et d'autres illégales. Ça, c'est la loi. C'est dans la loi qu'on va voir si un produit est légal ou non, ou si on le considère comme interdit. Et du coup, quand il parle de lutte contre la drogue, généralement, il parle de ces produits qui sont interdits par la loi, mais que ça, c'est une classification qui est faite par le législateur et qui n'y a pas. Voilà, et qu'il y a plein de drogues qui sont légales, non interdites. Comme par exemple l'alcool, le tabac. Et ce n'est pas du tout ces produits-là qui vont être visés dans les discours médiatiques quand on parle de lutte contre la drogue. Et parmi les produits qui sont classés comme illicites, là aussi, les choses, elles ne sont pas hyper imperméables les unes avec les autres, dans le sens où il y a certains produits qui vont être considérées comme une drogue quand elles sont vendues par un dealer et obtenues illégalement, par exemple en falsifiant les ordonnances ou des choses comme ça. Mais le même produit ne va pas être considéré comme une drogue quand il est consommé dans un cadre légal, par exemple s'il est prescrit par un médecin. Par exemple, la kétamine, les anxiolytiques vont être considérés comme des médicaments quand ça va être prescrit par un médecin, alors que dans d'autres situations, les personnes qui en consomment vont être considérées comme droguées si elles se procurent les produits hors du cadre légal. Et d'ailleurs, on pense aussi dans les lieux d'enfermement, dans les CRA par exemple, où les personnes elles vont être souvent poussées par les médecins à prendre des anxios pour rester calmes. Du coup, c'est une consommation qui va être encouragée à l'intérieur du CRA, alors que à l'extérieur, si la personne elle poursuit sa consommation une fois qu'elle sort du CRA, là, on va la considérer, enfin, les autorités vont la considérer comme droguée à ce moment-là. Voilà. Donc, c'était une petite introduction parce que dans la suite de l'émission, on va parler de la guerre contre la drogue menée aux États-Unis, sans repréciser à chaque fois ce qui est entendu par drogue, et que c'est quand même un élément important dont la manière dont les politiques répressives contre l'usage ou le commerce des drogues se fait, c'est un point important de voir que la définition, ben, c'est un choix du législateur et que... qui va décider à la fois quels produits et quels usages du produit font qu'il s'agit de drogue ou non.
Et on pourrait avoir l'impression que c'est une classification qui est faite selon est-ce que les drogues elles sont dangereuses ou pas. Et on sait en fait que par exemple l'alcool qui est une drogue légale, bah, elle a un potentiel addictif très important. Voilà, enfin c'est aussi... une drogue qui est légale, dont les vendeurs se font beaucoup d'argent, mais qui pour autant reste une drogue dangereuse, alors que d'autres pourraient l'être moins et pour autant sont tout aussi criminalisées. Criminalisées. Pour revenir sur le contexte des États-Unis dont on avait envie de parler ce soir, il y a eu un changement. entre le 19e et le 20e siècle, vu qu'au 19e siècle, il y avait un usage répandu de l'opium, de la morphine, de l'héroïne, comme des antidouleurs, à la fois dans les usages quotidiens et à la fois, par exemple, sur les champs de bataille de la guerre d'indépendance. Par exemple, on trouvait de l'héroïne dans des sirops pour la toux. C'était des drogues qui étaient utilisées comme antidouleurs dans des pathologies. Il y avait de la cocaïne dans le coca, dans les cigarettes. C'était distribué sous forme de seringues, etc. Donc voilà, c'était un usage qui était répandu et pas du tout criminalisé. Et il va y avoir un tournant. D'abord avec l'opium qui va être associé à la population chinoise immigrée accusée de voler les emplois et donc du coup là l'opium va commencer à être interdit de consommation et ça va se diffuser tout au long du XXe siècle jusqu'à ce que en 1971 le président Nixon fait une déclaration où il dit que la drogue devient l'ennemi public numéro 1. Et là, petit à petit, il y a une politique d'interdiction de consommation, de détention et de vente qui va se mettre en place et qui va conduire beaucoup de gens à être condamnés et se retrouver en prison. Pourquoi la drogue devient l'ennemi public numéro un à ce moment-là ? Ça revient à la question de stigmatiser certaines populations qui sont supposées consommer plus de drogue. Avec par exemple les hippies qui sont accusés de consommer de la marijuana, du cannabis et en plus qui sont anti-guerre. Donc c'est comment on cible par la criminalisation cette population. Ça va être les populations noires accusées de consommer de l'héroïne. Et donc en fait on va avoir certaines populations qui sont ciblées avec derrière des objectifs politiques un peu caché, un peu pas déclaré, de à la fois criminaliser le mouvement hippie, mais aussi de comment une ségrégation contre la population noire se remet en place, alors même que la ségrégation légale et officielle a été supprimée de la loi. Mais ça, Alix va nous en parler un peu plus dans la suite de l'émission, de comment c'est spécifiquement la population noire et les populations racisées de manière générale qui sont ciblées par ces politiques de guerre à la drogue.
Ouais, peut-être juste préciser du coup que au moment où Nixon y fait ses déclarations, on n'est pas très loin de après la guerre du Vietnam qu'a vu le mouvement hippie. Pas très loin après les mouvements du coup pour les droits civiques des populations noires et du coup ces deux populations qui vont être considérées comme
indésirables,
en tout cas où va y avoir un enjeu politique autour c'est un peu les forces entre guillemets progressistes de casser ces communautés-là parce qu'on a peur de politiquement qu'est-ce que ça peut apporter et d'un côté le mouvement des droits civiques et de l'autre les luttes qu'il y a eu autour de la guerre du Vietnam. Et du coup c'est pour ça que les hippies vont être associés à la consommation de marijuana et du coup avec toute la peur de ils vont pervertir la jeunesse américaine bien élevée qui vont se mettre à consommer de la drogue aussi et la population noire qui va être plus associée à d'autres drogues comme entre autres le crack.
Et peut-être aussi pour compléter sur la guerre du Vietnam, c'est aussi un moment où il y a une très forte consommation d'héroïne parmi les soldats, notamment pour en fait supporter le fait d'être obligé de partir à la guerre, la conscription, etc. Et il y a beaucoup de soldats qui reviennent de la guerre du Vietnam en étant addicts à l'héroïne. Et du coup, c'est aussi un enjeu qui est lié à cette guerre via ce biais-là.
Et d'ailleurs, plusieurs années, enfin, j'ai pas l'année exacte, mais du coup, plusieurs dizaines d'années après, il y a un ancien conseiller de, Ni- de Nixon, John Ehrlichman, qui va confirmer à un journaliste, du coup, a posteriori, le contexte d'apparition de la prohibition de la drogue aux États-Unis, c'était pour viser les Noirs et les hippies et pour casser des communautés. Ça a été affirmé après coup de façon assez claire, même si bien sûr, dans les années 70, c'est pas du tout ça qui va être tenu comme discours, quoi. Et du coup, pour revenir un petit peu aussi sur les drogues, du coup, tout à l'heure, je disais, c'est le législateur qui va décider quels produits et quels usages vont être considérés comme une drogue ou non. Et il va y avoir des biais culturels, du coup, dans ce qui est interdit ou pas. Comme disait Henri, il y a des produits qui pourraient être considérés comme des drogues et interdits, et qui pourtant le sont pas, et d'autres qui, eux, vont être classés comme interdits. Et la drogue, généralement, c'est toujours le produit de l'autre. Voilà, l'opium associé aux Chinois. Alors qu'il y a eu aussi une tentative aux États-Unis d'interdire l'alcool à un moment, mais qui a été abandonnée au bout d'une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Car c'est aussi ancré culturellement chez beaucoup d'Américains que consommer de l'alcool, c'est quelque chose de normal. Et du coup, l'interdiction, elle n'a pas entraîné de baisse de la consommation. Ce que ça a montré, c'est que ça n'a pas entraîné de baisse de la consommation, mais seulement une baisse de recettes pour l'État, parce que du coup, comme c'était interdit, il n'y avait plus de taxes sur l'alcool. Et du coup, ils ont enlevé cette interdiction. Et que cette interdiction, même si elle a été faite et que du coup, à ce moment-là, l'alcool était plus vendu légalement, il n'y a pas eu de répression réelle, à ce que j'ai compris en tout cas, des consommateurs. Il n'y a pas eu des incarcérations massives, comme on va le voir, il y a eu pour d'autres produits dans la guerre contre la drogue les années... Enfin, plus tard, quoi.
Par rapport à la prohibition de l'alcool, il y a ce truc que c'était un projet religieux aussi derrière, de puritanisme, enfin lié au protestantisme et au puritanisme, et que du coup, bah, en fait, juste, il fallait pas que les gens boivent de l'alcool et donc soient sous et se droguent, etc. Et ce rapport moral à la drogue, on le retrouve dans le rapport aux autres substances qui sont interdites, illégales, et dont on va parler, que ce soit le crack, l'héroïne, la cocaïne, etc. Et effectivement, la raison pour laquelle il est mis fin à la prohibition de l'alcool, c'est qu'il y a un trafic de contrebande, un marché noir qui se met en place, qui est archi efficace, et que du coup, plein de ressources de taxes qui ne reviennent pas à l'État, et c'est pas l'intérêt de l'État que l'alcool soit interdit. Et donc l'alcool est réautorisé aux États-Unis.
Et du coup, pour lancer la guerre à la drogue, les politiciens aux États-Unis vont s'appuyer sur une propagande médiatique qui va montrer l'usager de drogue comme un ennemi et comme une source de danger. Danger d'abord pour lui-même et sa famille à cause des implications sur la santé, et danger pour la société par ses comportements violents. Et donc la drogue qui va être la plus stigmatisée dans les médias, ça va être le crack à ce moment-là. Qui va être associé à la communauté afro-américaine. Et il va y avoir de nombreuses histoires des faits divers qui vont sortir et qui vont être très développées et très relayées, notamment sur les bébés du crack. Du coup, les bébés du crack, c'est des enfants dont les mères auraient consommé du crack en étant enceintes, et ce qui aurait provoqué par la suite de graves problèmes de développement chez l'enfant. Et du coup, à ce moment-là, aux États-Unis, il y a... vraiment, les bébés du crack, c'est pas un petit truc, quoi. On en parle vraiment beaucoup, beaucoup dans les médias. Et ça va être très utilisé pour justifier des politiques répressives, alors que par la suite, ça sera démontré que c'est plus les conditions de vie des enfants que la consommation de crack de la mère pendant la grossesse qui a pu avoir des répercussions sur les enfants. Et donc toute cette propagande sur le crack, comme une drogue particulièrement nocive en l'associant à la communauté noire, ça aura pour conséquence de stigmatiser une population et de faire entrer dans les représentations communes que si la majorité des personnes enfermées pour des délits liés à la drogue sont noires, Ce n'est pas une question de racisme, mais avant tout parce que ce sont les Noirs qui consomment ou qui dealent du crack, qui serait la drogue la plus nocive. Alors que pourtant, on y reviendra tout à l'heure dans la suite de l'émission, mais il y a d'autres mécanismes répressifs sur la manière dont les contrôles vont se faire, la manière dont la répression va être appliquée, qui vont expliquer que la hausse énorme des incarcérations qui va être provoquée par la guerre contre la drogue touche particulièrement la communauté noire. Et toutes ces campagnes médiatiques, on peut penser à Just Say No, t'en reparleras un petit peu tout à l'heure, je crois, ça va préparer l'opinion à ce que ça soit logique, à ce que plein de Noirs se retrouvent en tôle, quoi.
Ouais, par rapport à la question de qui est ciblé et qui se retrouve en prison, en fait, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que il n'y a pas une plus grosse consommation de drogue chez les populations racisées aux États-Unis vis-à-vis des populations blanches, mais que, en fait, comme c'est elles qui sont plus contrôlées, plus ciblées de plein de manières différentes, et ben du coup, c'est plus les populations noires et racisées de manière générale qui se retrouvent à être criminalisées et mises en prison. Peut-être avant de continuer, on se fait une petite pause musicale.
Ouais.
Là, on va écouter Passé Simple de Ultra Moderne et on se retrouve juste après ça. Sur Radio Libertaire 89.4 FM. C'est l'émission anticarcérale contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois. Là, on est dans le numéro 88 et on parle de la guerre à la drogue aux États-Unis. On va revenir un peu sur les étapes de cette guerre à la drogue de manière chronologique et montrer comment cette répression se met en place. Dès les années 50, en fait, on a l'introduction de peines planchers. Qu'est-ce que c'est une peine planchée ? C'est une peine de prison obligatoire, minimum, pour des délits de, par exemple, possession de cannabis, qui est, dans les années 50, déclarée comme étant une drogue dont la consommation mène ensuite à en consommer d'autres, dites plus dures. Donc, dans les années 50, état après état, on va avoir des peines planchées de 2 à 10 ans qui se mettent en place pour la possession de cannabis. Ensuite, on a dit tout à l'heure que dans les années 70, il y a Nixon qui déclare la drogue ennemi public numéro 1, qui confirme et durcit les peines planchers, qui met en place l'autorisation pour la police de rentrer sans frapper et sans prévenir dans les affaires de stupéfiants pour soi-disant ne pas permettre aux gens qui en possèdent et en vente de les détruire, ce qu'on appelle le no-knock warrant, donc le fait de pouvoir rentrer pour la police sans frapper. Mais en fait, en réalité, c'est vraiment à partir de la présidence de Reagan dans la décennie 80 et celles qui suivent que ça se durcit encore plus, avec à la fois une forte augmentation des dépenses publiques dans la politique intérieure et dans la politique extérieure. Dans la politique intérieure, ça se traduit avec un gros focus sur les moyens policiers et beaucoup moins pour le soin pour les usagers de drogue et l'aide vis-à-vis des usagers de drogue. Et pour la politique extérieure, c'est une guerre, différentes guerres contre les cartels de drogue, notamment. On va pas s'arrêter là avec Reagan, puisque sa femme va rentrer dans le game aussi avec la campagne dont tu as parlé tout à l'heure, Just Say No, avec beaucoup d'affichages, beaucoup d'interventions de la police en milieu scolaire, premièrement pour justifier et normaliser que la drogue c'est vraiment mauvais, qu'il faut protéger la jeunesse de sa consommation, que ce soit de cannabis ou d'autres drogues. Et puis comme t'en as parlé tout à l'heure Alix, le crack devient un problème numéro un dont on parle beaucoup dans les médias.
Juste pour revenir sur Just Say No, il y a aussi tout un tas de chansons, oui, de clips, de musique qui vont passer et c'est ça un peu le Just Say No. C'est, il suffit de dire non, voilà, remettre aussi une responsabilité ultra individuelle s'ils se font prendre, ils l'ont bien cherché, et la drogue, il faut juste y dire non, quoi.
On mettra en référence de l'émission, si vous voulez en savoir plus sur notamment ces musiques-là et cette campagne, il y a l'émission Bruit d'audience, tapage, qui a fait 2 émissions au sujet de... très très chouette, au sujet de notamment cette campagne. Donc je disais, Reagan, il va pas du tout faire les choses à moitié, et notamment par rapport au fait que le crack devient un problème public numéro un et très présent dans les médias, ça va permettre que ça va permettre une criminalisation des usagers du crack beaucoup plus que ceux de la cocaïne, alors qu'en réalité c'est la même substance, sauf qu'elle est en poudre d'un côté et en cristaux de l'autre, et donc il y a une consommation qui peut être plus facile dans la rue via les cristaux et qui est beaucoup plus celle de la jet set ou celle pour la poudre.
Oui, et puis un produit qui est coupé, l'autre non.
Du un coup, produit qui est coupé et donc qui coûte moins cher et donc qui est accès, enfin qui peut avoir auquel des populations précaires peuvent avoir plus facilement accès. Quand les peines planchers sont mises en place, les délits liés au crack vont être punis beaucoup plus sévèrement que les délits liés à la cocaïne. Par exemple, pour le crack, c'est 5 années de prison pour 5 grammes, alors que pour la cocaïne, c'est 500 grammes qui vont entraîner 5 années de prison. Et ça, ça a été appelé l'échelle de 1%, car il faut se retrouver avec 100 fois plus de cocaïne pour la même peine que pour le crack en termes de quantité. Et ça montre que ça, c'est pas juste une molécule en particulier qui est visée, mais des usages associés à une population particulière, parce que le crack est plus associé à la population noire et la cocaïne à la population blanche. Cette criminalisation de l'usage de la drogue, ça va continuer dans les mandats présidentiels suivants, Bush senior, Bush junior, Clinton et même Obama, qui, s'il police son langage, en réalité, le résultat reste assez similaire dans les faits. Ce que cette politique va créer, c'est 1,5 million d'arrestations chaque année liées à la drogue, dont 32% en lien avec le cannabis, un développement exponentiel des prisons, de manière générale, et d'une industrie de la prison avec de la privatisation, tout un système de la prison qui va aussi créer beaucoup de profits pour les industries qui y sont liées. Et pour les personnes qui sont criminalisées, ce qui va être défini comme la création d'une sous-classe à laquelle on retire des droits civiques, des droits sociaux, la possibilité d'accéder à des logements sociaux et à des aides sociales et au travail en sortant de prison, ce qui rend la vie de ces personnes condamnées très difficile. Et du coup, qui va créer une nouvelle classe urbaine racisée noire, une sorte de sous-classe qui a des droits sociaux beaucoup moindres et très différents. Ces arrestations, elles sont liées avec l'incarcération d'un million de personnes par an, et c'est un cinquième de la population américaine qui est concernée. Et cette guerre à la drogue, elle se retrouve aussi dans d'autres points, puisque par exemple, il y a une généralisation des tests d'urine sur les lieux de travail, qui est très populaire dans les années 90, vu que l'administration Reagan l'a rendue obligatoire dans les années 80 au niveau fédéral pour les travailleurs des administrations fédérales aux États-Unis. En diffusant l'idée que c'est la drogue qui crée de l'improductivité au travail. Et ces tests d'urine généralisés, ils rendent des pans entiers de la population inemployables, surtout quand ce test prend en compte la consommation de cannabis. Et ce que ça a même créé à certains moments, c'est une pénurie de chauffeurs routiers et de chauffeurs de bus qui étaient rendus inemployables. Et donc, qui a amené à ce que ces tests diminuent dans les années suivantes et que le cannabis parfois soit exclu finalement de ces tests. Donc ça a été petit à petit remis en cause, même si aujourd'hui il y a une entreprise sur deux aux États-Unis qui y a toujours recours, donc test d'urine pour détecter la drogue à l'embauche. Voilà à peu près pour un état des lieux un peu chronologique de cette guerre à la drogue.
Et du coup, la guerre à la drogue, ça va faire une énorme augmentation du nombre de personnes qui sont incarcérées aux États-Unis. On estime qu'entre 1995 et 2000, il y a deux tiers des augmentations du coup des incarcérations dans les prisons fédérales et plus de la moitié dans les prisons d'État de cette augmentation qui est liée à la guerre contre la drogue. En 2007, on a environ 500 000 personnes qui sont en prison pour des délits liés à la drogue, contre 41 100 en 1980, ce qui fait déjà une grosse augmentation. Et ça, c'est les chiffres de 2007, donc on imagine que ça a dû peut-être augmenter après. Les arrestations, elles ont triplé depuis 1980 pour les délits liés à la drogue. Il y a plus de 31 millions de personnes en 2010 qui avaient été arrêtées depuis le début de la guerre à la drogue. Et plus de gens qui étaient alors en prison pour des délits liés à la drogue que des gens qui étaient en prison 30 ans plus tôt pour toutes sortes d'infractions confondues. Parmi toutes ces arrestations, il y en a énormément, 4 sur 5, on estime en moyenne, qui étaient pour de la possession de drogue et pas nécessairement pour de la revente. Énormément qui étaient pour du cannabis. Voilà. Et de 1980 à 2000, le nombre de personnes incarcérées aux États-Unis, il est passé de 300 000 à plus de 2 millions. Donc ça fait vraiment... Enfin, c'est un peu vertigineux. Quand j'ai vu les chiffres, je ne pensais pas que c'était autant. Enfin, je savais qu'il y avait eu une augmentation, qu'on parlait souvent d'incarcération massive quand on parlait des États-Unis depuis les années 70. Mais là, ça montre... J'ai quand même trouvé ça assez impressionnant. Et fin 2007, il y a de plus de 7 millions de personnes, soit un adulte sur 31 qui se trouve en prison ou en liberté conditionnelle. Et du coup, cette hausse, elle est énorme. Les chiffres, ils montrent et que la hausse, elle est énorme, et que la hausse, elle est liée du coup à des délits liés à la drogue. Et le nombre de personnes noires incarcérées dans l'Illinois, par exemple... environ 90% des personnes condamnées à de la prison pour un délit lié à la drogue sont noires. Et dans certaines villes, on a parmi les jeunes adultes 80% des jeunes qui ont un casier judiciaire. Donc, ils soit sont en taule, soit ils sont passés, quoi. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a à la fois une incarcération massive... que c'est lié à la guerre contre la drogue et que c'est beaucoup des personnes noires qui sont enfermées via cette incarcération massive. Ouais.
Juste par rapport à l'incarcération massive, y a, par rapport aux peines planchers dont on parlait tout à l'heure, y a une nouvelle politique au niveau de tous les États qui va être mise en place dans les années 90. Par l'administration Clinton, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est ce qui a été appelé « three strikes and you're out ». Au bout de trois délits, crimes, etc., on est condamné à la prison à vie. Et ça inclut et ça fait que beaucoup de personnes ont été condamnées à de la prison à vie dans les années 90 et 2000. Suite à trois délits liés à la drogue, ou non, mais du coup, qui pouvaient être à la fois conduite, enfin liée à des délits routiers, des délits violents liés à la drogue, de la possession de drogue, etc. Et au bout de trois fois, des personnes, en gros, c'était une sorte de sursis au-dessus de la tête des personnes, et les personnes étaient condamnées à la prison à perpétuité.
Ouais, c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui se sont retrouvées condamnées à de la prison à vie pour des délits hyper minimes du type possession de quelques grammes de drogue.
De cannabis.
Mais du coup, c'était leur troisième arrestation. Et du coup, automatiquement, il y avait cette loi-là qui s'appliquait. Et du coup, le fait que cette incarcération, comme je disais, massive, du coup, l'augmentation énorme des incarcérations, qu'on voit que c'est réellement lié à des choses autour de la drogue à cette période-là, et que ça touche principalement les Noirs, c'est ce que Michel Alexander a dénoncé dans son livre comme étant une nouvelle caste raciale du coup aux États-Unis via l'incarcération massive. Donc son livre, c'est The New Jim Crow, qui a été traduit en français par La couleur de la justice. Mais les lois de Jim Crow, c'était les lois de ségrégation aux États-Unis avant le mouvement pour les droits civiques. Et du coup, ce qu'elle montre dans son livre, c'est qu'aux États-Unis, il y a toujours eu, lors de l'avancée des droits de la communauté noire, un mouvement pour recréer des castes raciales. Et que du coup, après la fin de l'esclavage, il y a eu à un moment les lois Jim Crow, du coup, sur la ségrégation raciale qui sont arrivées. Et qu'après la fin des lois Jim Crow, il y a l'incarcération de masse au nom de la guerre contre la drogue, qui va créer une nouvelle caste raciale en enlevant aux personnes un certain nombre de droits. Parce que du coup, quand on sort de prison, il y a un certain nombre de droits qui sont perdus. Le droit de vote, le droit de siéger dans un jury, le non-accès à certains logements sociaux, le non-accès à certaines prestations sociales, le non-accès aux bons alimentaires, ce genre de choses qui vont s'appliquer quand on a été condamné pour un délit lié à la drogue. Et ce qu'elle va montrer, c'est que c'est apparemment la guerre contre la drogue racialement neutre, dans le sens où on ne va pas dire que les personnes, elles perdent leurs droits à cause de leur couleur de peau, mais qu'elles perdent leurs droits à cause de leur comportement. Que les gens, ils choisissent de se mettre hors la loi en faisant, en consommant ou en dealant. Et que du coup, on peut pas dire que c'est quelque chose de raciste, mais que c'est les gens qui le cherchent, quoi. Et ce qu'elle montre, c'est que si dans les faits, c'est essentiellement des Noirs qui vont être emprisonnés et puis qui, du coup, à leur libération, seront dépourvus de tout un nombre de droits, c'est pas un hasard et que ça serait pas parce que les Noirs consommeraient ou dealeraient davantage de drogue que les autres populations, mais que c'est la manière dont la guerre à la drogue s'effectue qui fait qu'ils sont plus souvent condamnés et plus souvent enfermés. Par exemple, les arrestations dans le cadre de la guerre contre la drogue, elles ont généralement lieu après des descentes pour chercher de la drogue ou en arrêtant des gens pour des délits routiers, parfois factices, afin de pouvoir fouiller le véhicule à la recherche du coup d'un produit interdit. Et il y a donc un arbitraire des policiers qui vont décider où effectuer ces descentes et qui arrêter au volant pour procéder à ces fouilles. Et du coup, voilà, il y a un gros arbitraire de la police dans la guerre contre la drogue parce qu'il y a rarement, de temps en temps, mais c'est rarement de la flagrance. C'est rarement, ils voient un délit, ils vont intervenir, mais que généralement, c'est augmenter le nombre de contrôles parce qu'en augmentant le nombre de contrôles, on augmente la probabilité de tomber sur de la drogue à un moment. Et que du coup, ils vont décider où mener ces contrôles, surtout qu'il y avait des grosses incitations financières faites sur les commissariats pour arrêter des gens pour des délits liés à la drogue, avec des subventions, des trucs qui étaient donnés.
Il y a un truc que je ne sais plus où j'ai entendu ou lu ça, qui est que les commissariats aux États-Unis, ils peuvent aussi vendre tous les biens qu'ils ont saisis dans le cadre de la lutte contre la drogue, que ce soit des voitures, des maisons, etc. Et qu'ils ont aussi une incitation financière dans ce sens-là, vu que, en fait, quand ils saisissent une voiture, ils peuvent la vendre et donc garder le fric.
Et aussi, du coup, après les arrestations, il y a les peines passées devant la justice. Mais avant même... et là, il y a tout le truc des peines planchers dont on parlait tout à l'heure. Du coup, il y a des peines planchers qui vont être mises en place pour la lutte contre la drogue, avec des peines planchers différentes selon la drogue qui a été saisie. Et ce qui font que, par exemple, pour le crack, ce qu'on disait, c'est qu'il faut 5 grammes de crack pour 5 années de prison. Le fait que pour le crack, les peines planchers soient très, très hautes, ça va faire que les personnes qui vont être arrêtées en possession de crack vont accepter de plaider coupable pour des délits, y compris s'ils ne les ont pas commis. Si par exemple il y a du crack qui est retrouvé, une petite quantité de crack qui est retrouvée dans un appartement qui a été fouillé, mais que la personne elle vit à plusieurs ou à plein et c'est pas forcément elle qui était en possession du crack, du coup elle peut quand même être condamnée. Et du coup les peines planchers pour tout ce qui est lié au crack, elles sont tellement élevées que ça va pousser beaucoup de personnes à accepter de plaider coupable pour pouvoir négocier avec le procureur une peine moins lourde que les peines planchers. Et ce qui fait que dans tout ce qui est délit lié au crack, on a très très souvent les gens qui vont accepter de plaider coupable et qui du coup vont après aller en prison. Et au moment de la sortie, où ça va être très compliqué parce qu'il y aura en plus la loi, je ne sais plus comment tu l'as appelée.
Three strike and you out.
Voilà. Ou... ou du coup, ben, si y a une autre infraction, même pour d'autres choses, elle risque la perpétuité, quoi. Et qu'en plus, il y a toutes les discriminations dont j'ai parlé à l'égard des personnes condamnées qui sortent de prison. Et par exemple, pour l'emploi, il y a aussi une case, souvent, sur les formulaires qui existent, où la personne, elle doit déclarer si elle a été condamnée ou pas. Du coup, c'est légal de le demander à un employé. Ce qui fait que, bien souvent, quand les gens ils cochent la case qu'ils ont été condamnés, on ne va pas les embaucher, quoi. Et du coup, tout ça, c'est ce que développe Michelle Alexander pour expliquer que c'est ce qu'elle appelle une sous-caste ou une nouvelle caste raciale. Du coup, avec un nombre considérable de jeunes noirs qui vont prendre des dizaines d'années de prison pour des délits souvent mineurs liés à la drogue. Et elle va dire aussi que cette différence de traitement entre les noirs et les blancs, dans le cadre de la guerre contre la drogue, ça peut interroger. Et que ça sera. Qu'elle le dénonce comme le fait que la politique de la guerre à la drogue aux États-Unis, du coup, ça avait pour objectif cette nouvelle caste raciale, et aussi que cette politique de guerre à la drogue, elle n'aurait pas été acceptée par les Américains si on avait vu des dizaines de milliers de jeunes blancs partir en prison pour des dizaines d'années pour des délits mineurs, d'avoir sur soi quelques grammes de drogue, comme ça a été le cas là. Enfin, l'acceptation, elle a eu lieu du coup de ce qui s'est passé dans la population noire. Voilà.
Et même par rapport à la question des droits civiques, ça pose même la question de, en fait, est-ce que les résultats des élections, ils sont pas différents du fait que, en fait, il y a une grosse partie de la population qui, après avoir été condamnée et avoir fait de la tôle, ne peut pas voter. Et cette grosse partie de la population, elle est racisée et donc du coup, ça. Enfin, c'est dans quelle mesure, en fait, ça crée quelque chose de démocratique, bien entendu, avec toutes les réserves vis-à-vis du droit de vote et de la possibilité des gens de changer les choses vis-à-vis du vote. Mais ça pose quand même question. Avant de continuer dans la suite de cette guerre à la drogue aux États-Unis, des effets que ça a eu, on va s'écouter une petite musique, et c'est Ratata de Médine.
Quand je serai grand, je veux être dresseur de cirque, faire asseoir les lions et lever le public. Quand je serai grand, je voudrais être Omar Sy, pour que la police avec moi fasse des selfies. Pour l'instant, je me suis inscrit au théâtre, c'est toujours moi qui fais le rôle de l'arabe. Quand je serai grand, je veux quitter où j'habite, partir loin comme l'astronaute Thomas Pesquet. Est-ce qu'il nous voit sur l'image satellite quand on fait des doigts d'honneur à la cité? Courir pour rien devant les keufs, on a été à la bonne école, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Un rodéo en motocross, poursuivi par les robocops, on a entendu un bruit retentir. Ratatata, tara. Taran, taran, il charge, il braque, puis il tire. Ratatata, taran, 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 il charge, il braque, puis il tire. Quand je serai grand, je voudrais être journaliste, écrire dans Le Monde ou dans Mickey Magazine, pour pouvoir parler du drame des Rix qui se déroule entre la récré et la cantine. Ou bien peut-être devenir une actrice, être aussi célèbre que Leila Bekti. Comme ça je pourrais me venger de mes ennemis, ceux qui m'ont dit on t'attend à la sortie.
Trois gamines et puis leur grand rof. M'attendent armés devant l'école. M'ont pas laissé le temps de réfléchir. Ratatata. Un couteau papillon dans la poche. Une arme de poing dans la sacoche. On a entendu un bruit retentir. Ratatata. Taran, taran, taran. Ils chargent, ils braquent, puis ils tirent. Ratatata. Taran, taran, taran. Ils chargent, ils braquent, puis ils tirent. Comme y'a des gens qui ne vieillissent jamais, y'a des enfants qui ont jamais été enfants. Moi quand je serai grand, je veux pas mourir trop vite. Être au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai pas choisi d'habiter dans la street ou de mourir en bas de mon bâtiment. On a grandi que entre pauvres, dans un décor d'entrepôt. Je crois qu'ils auraient dû mieux nous répartir. Mon âme est morte avant mon corps. Embrasse chaleureusement la daronne. Dis-lui que son enfant s'est fait refroidir. Ratatata. Taran, taran. Je pars, je pleure, je respire.
On est dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h généralement. C'est sur Radio Libertaire 89.4 FM. Si vous voulez nous contacter pendant l'émission, c'est au 01 43 71 89 40. Ce soir, c'est l'émission 88 et on part de la guerre à la drogue. On vient d'écouter Ratata de Medine. Pour continuer, on s'est posé la question de est-ce que ces politiques de guerre à la drogue, elles ont été très efficaces pour stigmatiser une partie de la population, emprisonner et supprimer des droits d'une partie de la population racisée aux États-Unis. Mais est-ce qu'elles ont été efficaces pour réduire l'usage de la drogue en tant que problème déclaré de santé publique? Et en fait, la réalité, c'est que non. Que le nombre de consommateurs y s'est stabilisé ou l'a augmenté légèrement selon les décennies. Et que de toute façon, l'accent il a toujours été mis sur la répression et non sur le soin apporté aux usagers de drogue en les mettant au centre, dont on sait que c'est les seules mesures efficaces pour lutter contre les addictions. Tout ce que nous montrent ces politiques de guerre à la drogue, c'est d'abord un rapport très moral à la drogue. C'est que les usagers de drogue ne seraient pas des membres de la société, qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas travailler. Et donc que la drogue doit être interdite pour que chaque citoyen soit un travailleur sain et efficace. Que les personnes qui consomment le choisissent sans prendre en compte le contexte social dans lequel elles sont et qui peuvent les mener à plus facilement ou non à être usagers d'une drogue. Et aussi l'idée que les usagers de drogue seraient des dangereux criminels qu'il faut mettre à l'écart de la société en les mettant en tôle. Et puis on peut dire aussi un mot de l'usage récréatif. Qui lui aussi est condamné moralement, encore une fois dans un puritanisme purement américain, mais qui se retrouve aussi en France d'une certaine manière.
Et dans cette émission, on avait envie de parler aussi un peu de comment il y a des communautés qui sont organisées à des moments aux États-Unis pour faire face à la drogue pour faire face à la drogue et aux soucis que ça pouvait engendrer chez les habitants des quartiers. Et du coup, au niveau de la santé, il y a eu certaines tentatives de soins communautaires pour faire face à l'addiction. Après, il faut se dire que là, ce que je vais parler, c'est aussi des groupes qui ont limité plus largement, pas que sur la question des drogues, mais sur les questions de santé et qui vont aborder la santé non uniquement comme et la médecine non uniquement comme un savoir scientifique, mais comme un objet politique où se reflètent et s'accroissent les oppressions et les discriminations. Et du coup, où la santé, ça se sente pas uniquement sur le biologique qui entre en jeu, mais aussi sur les conditions d'existence, les oppressions subies, ce qui fait qu'il va y avoir aussi une remise en cause de la figure du médecin comme expert surpuissant. Et une volonté de se réapproprier certains savoirs médicaux. Et du coup, par exemple, il y a les Black Panthers qui vont créer plusieurs cliniques dans les quartiers noirs dans les années 60. Et ces centres communautaires qui sont ouverts, ils vont fonctionner à la fois comme des dispensaires pour recevoir des soins et comme des centres d'aide sociale avec, par exemple, la distribution de petits déjeuners et des lieux pour de la formation politique et émancipatrice. Et du coup, les Black Panthers vont mener des campagnes sur des sujets de santé qu'ils estiment particulièrement importants pour la communauté noire, comme des actions autour du dépistage de la drépanocytose ou de la tuberculose. Et va y avoir aussi des expériences autour de la lutte contre l'addiction, notamment la lutte contre l'addiction à l'héroïne dans ces centres. Parce que du coup, dans les années 60 et 70, c'est deux décennies où il y a l'héroïne qui se propage dans les quartiers noirs et latinos, avec de nombreux jeunes qui meurent d'overdose. Et du coup, du côté de la communauté latinos, on va avoir les Young Lords. Désolée, mon accent anglais est vraiment pourri. Du coup, qui se définissent eux-mêmes comme un mouvement nationaliste révolutionnaire qui lutte pour l'indépendance du Porto Rico et pour l'amélioration des conditions de vie des Porto-Ricains. Et qui vont notamment mener l'ouverture du Lincoln People Detox Center, donc le centre de désintoxication populaire de Lincoln. L'hôpital de Lincoln, il est situé dans le Bronx à New York et il va du coup être occupé par ce groupe une première fois en juillet 1970 pour dénoncer l'organisation des soins à l'hôpital et l'état de cet hôpital qui symbolisait pour eux la santé à deux vitesses et les inégalités sociales et raciales existantes. Sachant que cet hôpital... C'est un hôpital à la base qui était là pour soigner les esclaves. Donc, on imagine bien l'état de l'hôpital qu'on avait dû pas construire un truc hyper classe. Et c'était surnommé la boucherie par les gens du coin, quoi. Et du coup, il y aura eu une première occupation de cet hôpital qui avait été fait par eux, du coup, de façon générale sur la santé en juillet 70. Et en novembre 70, ils vont réoccuper une seconde fois l'hôpital pour demander l'ouverture d'un programme de lutte contre l'addiction et de participer, la participation de la communauté portoricaine à ce programme. Autant la première fois, l'occupation, elle avait duré 24 heures. Cette fois-ci, elle va durer plus longtemps. Il va y avoir un soutien des médecins et des infirmières, ce qu'ils vont faire, qu'ils vont finir par se voir allouer quelques fonds par l'administration. Et du coup, ils vont proposer un programme qui va être fondé à la fois sur le fait de proposer des produits pour soulager un peu le manque physique lors des premiers jours de sevrage, donc de la méthadone notamment, et à la fois sur l'exploration collective des facteurs politiques de l'addiction, donc avec des discussions entre les gens qui viennent dans ce centre-là sur les conditions d'existence, leurs conditions d'existence et les oppressions subies comme éléments explicatifs de l'usage de drogue. Chez les Young Lords, il y avait beaucoup de personnes qui étaient d'anciens héroïnomanes. Et voilà, on voulait parler de ces expériences du coup qui étaient en cours dans les années 60-70, donc dans les tout débuts de la guerre aux drogues qui était déjà présente, pour montrer aussi une vie, une autre vision de comment considérer les personnes addictes à l'époque, où c'est les personnes. Enfin, des personnes, comme je disais, il y avait beaucoup d'anciens héroïnomanes, donc des consommations de drogue qui sont jugées problématiques par les usagers eux-mêmes, mais où l'accent, il va pas être mis sur une responsabilité seulement individuelle, soit en disant que le consommateur, il aurait choisi librement de consommer et que donc c'est son problème si aujourd'hui il est en difficulté face aux produits. Voilà, qu'il l'aurait bien cherché en commençant un jour à prendre de la drogue, quoi. Soit parce que certaines personnes seraient plus sensibles de façon intrinsèque biologique mais qui ces expériences qui vont réaffirmer le rôle des conditions d'existence, des oppressions subies et des discriminations comme des éléments qui expliquent aussi qu'on puisse développer des addictions. Ce qui ne veut pas dire que toute personne qui consomme finira forcément addict, ni que toutes les dépendances à des drogues créent forcément un mal-être chez tout le monde.
J'ai l'impression que là, ce qu'on retient par rapport à toutes ces tentatives-là, c'est que ce qui marche, c'est genre les trucs faits avec les usagers, ce qui revient aussi aux politiques de réduction des risques, où en fait les gens, ils sont à même par exemple, dans les salles de shoot, consommer dans des conditions où, genre, ils sont pas en danger, etc. Et donc, tout ce qui est mis en place autour du soin et avec les usagers eux-mêmes et non contre eux. Donc, ils sont pas des politiques répressives. J'avais aussi...
Après, j'ai l'impression, enfin, peut-être...
Vas-y.
J'ouvre un peu un débat, mais peut-être que je me trompe et que je connais pas. C'est la réduction des risques. Mais que les politiques de réduction des risques en France, en tout cas, c'est en partie inspiré un petit peu du soin communautaire, mm-hmm. de prendre en considération les conditions d'existence, par exemple en fournissant des seringues, c'est l'exemple le plus connu, fournir mm-hmm. des seringues propres pour éviter la diffusion des hépatites, l'échange de seringues, ce genre de choses. Mais... Ou par contre, il y a le fait de consommer à moindre risque, mais j'ai pas forcément l'impression que, pas tout le temps en tout cas, que ça soit accompagné de discours sur les inégalités et les oppressions qui conduisent aussi à consommer.
Bah ça, je pense que j'ai l'impression que la différence, ça va être entre est-ce que c'est des associations d'usagers ou est-ce que c'est des politiques qui sont mises en place par des institutions et où du coup, ben, ça va être axé sur le soin, mais pas trop sur une réflexion de quelles conditions sociales amènent à consommer quoi. J'avais envie de changer de sujet et parler de la question de la législation du cannabis, sauf si tu avais
d'autres
trucs à ajouter là-dessus. Là, on se dirige un peu vers la fin de cette émission et un peu tout ce panorama qu'on aura fait sur la guerre aux drogues aux États-Unis. Et c'est vrai que ces dernières années, dans de plus en plus d'États américains, on a une légalisation de l'usage soit médical, soit récréatif, soit les deux, du cannabis, qui va poser la question de quelles réparations sont apportées aux communautés qui ont été criminalisées et ciblées dans le cadre de la criminalisation du cannabis, et aussi finalement à qui reviennent les profits de cette légalisation. Parce que ce qu'on voit, c'est que les communautés qui ont été ciblées, c'est pas à elles que reviennent les profits économiques, et c'est les gens continuent à purger des peines de prison alors même que l'usage de cette drogue a été légalisé. Et aussi, évidemment, donc il y a des entreprises de vente de cannabis créées par des personnes blanches qui se mettent en place et se font beaucoup de fric sur le cannabis, alors même qu'il y a des communautés entières qui ont été décimées, abîmées, mises en difficulté par la criminalisation de la même substance. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire pour mettre en perspective les questions de légalisation qui reviennent aussi de la même manière dans le débat en France. Ben, c'était à peu près tout ce qu'on voulait dire sur ce sujet-là.
Oui, juste, je voulais rajouter aussi. Du coup, tout à l'heure, j'ai parlé un peu du coup des Portoricains. Juste, du coup, on s'est beaucoup centré sur, dans l'émission, du coup, sur comment aussi les populations noires étaient visées par la guerre contre la drogue aux États-Unis, sachant que c'était quand même la principale communauté visée, la principale communauté qui a payé les pots cassés de ces politiques, mais qu'il y a notamment par rapport aux Blancs. Mais qu'il y a aussi les Latinos, du coup, qui ont été pas mal visés par ces politiques répressives, même si c'était un peu moins. Mais voilà, du coup, c'est quand même un sujet dont on n'a pas trop, qu'on n'a pas trop développé dans l'émission.
Bah, en tout cas, peut-être qu'on peut dire qu'il y a un ciblage particulier, notamment des Mexicains aux États-Unis, comme étant responsables du trafic de drogue, de l'arrivée de la cocaïne et de la marijuana. Et que ça, c'est aussi des questions qui reviennent dans le débat, dans la lutte contre la migration, contre les immigrations illégales aux États-Unis, qui est un peu très actuel en ce moment avec les politiques d'expulsion et de lutte contre la drogue aussi mise en place par Trump. C'est sur ces choses-là qu'on va se quitter pour cette émission. Carapatage reviendra dans 2 semaines, le 21 mai. 3e mercredi du mois. Vous pouvez nous contacter à carapatage@riseup.net, retrouver les précédentes émissions sur carapatage.noblogs.org et nous écrire au 4 Villa Stendhal, 75020 Paris. Avant de se quitter, on s'écoute Tour de chauffe de Shady6XX et on pense très fort aux personnes qui sont à l'intérieur, on leur envoie plein de force. Et c'était Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4 FM. À bientôt.
Salut.
Salut.
L'été arrive, soleil à la fenêtre, summer body me dit vite, mais je me sens pas prête. Il l'a mis dans les magazines, des filles trop fraîches, à la silhouette trop fine, pour être honnête. L'été est là, ça fait longtemps que je l'attends, je mets du vernis sur mes toits et je me bouche les oreilles. Je veux pas entendre ce que t'as à me dire, ni ce que je dois faire pour être belle. Mais comment être belle avec les cheveux pleins de sel? Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sous toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. La plage est pleine, coup de soleil sur la tête, le corps recouvert de crème et la peau trop pâle. Le bikini en vitrine, il va pas sur moi. Je suis entourée de filles sublimes, je rêve qu'elles n'existent pas. Non, je vais pas cacher mes poignets gonflés par l'amour. Trop kilos, c'est quoi? Y'en aura toujours trop ou pas assez. Tu me fous le seum en plein été. Dis-moi, toi qui sais comment être belle, je fais quoi de ma peau qui pèle? Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, tant pis, tu sais quoi. Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, la morale de l'histoire, c'est que t'es juste un miroir déformé de moi. Sur mon épaule, comme un mauvais diable accroché à ma peau. Mais je sais que tu n'existes pas. Si je dis que tu n'existes pas, summer body, je vais bien, tu sais quoi. Summer body, j'ai passé l'été sans toi. ça m'a beauté. Je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.